Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais commencer, Charles, à ce moment-là, pour introduire. Bonsoir à tous, parce que donc, tout à l'heure, quand voilà, je me suis présenté, je ne savais pas que je n'étais pas entendu. Mais donc, si tout le monde est là, à ce moment-là, on commence maintenant. On va scinder cet exposé en deux parties. Moi, je vais plutôt parler des guerres de Vendée en elles-mêmes, et Charles va ensuite parler de la chouannerie, pour justement bien montrer que c'est deux choses différentes. Même si ça tend à être souvent confondu. Donc j'ai préparé un petit diapo que donc je vais vous montrer. J'espère que vous arriverez tous à le voir. Dites-moi si c'est bon.
On te confirme, c'est bon, ça marche bien.
Super, très bien. Donc je vais essayer d'être synthétique parce qu'on pourra en parler pendant des heures des guerres de Vendée. J'ai commencé par vous faire une petite carte pour vous montrer simplement en fait où se trouvent les mouvements de chouannerie et les guerres de Vendée. Donc, vous voyez, en fait, c'est la Loire qui sépare ces deux mouvements. On a souvent tendance à dire, en fait, que les guerres de Vendée, c'est tout ce qui se trouve au sud de la Loire, donc ici en rouge, comme vous voyez avec le curseur. Donc, au sud de la Loire, qu'on appelle également la rive gauche de la Loire, et au nord de la Loire, qu'on appelle également la rive droite de la Loire, donc les mouvements de chouannerie qui s'étendent à la fois en Bretagne, mais aussi dans le Maine et en Normandie. Mais ça, je laisse cette partie pour Charles, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, je vais vous parler donc de ces guerres de Vendée. C'est vrai que les origines des guerres de Vendée sont aussi celles de la chouannerie, mais Charles va vous montrer, voilà, c'est assez différent. Alors, bien sûr, les guerres de Vendée sont provoquées dans le contexte de la Révolution française, comme vous le savez tous. Je vais aller très rapidement sur la Révolution française parce que je pense que vous connaissez déjà cet épisode. Mais en fait, c'est directement lié aux événements parisiens. Vous savez, bien sûr, qu'en 1789, bouleversement politique, un nouveau pouvoir politique se met en place, une monarchie constitutionnelle, et les Vendéens, comme beaucoup d'autres habitants du Royaume de France, acceptent ces changements sans problème. Alors, quand je dis Vendéens, vous savez que les départements datent de 1789. La France a été divisée en 83 départements. Et la Vendée, en fait, c'est une partie de ce que on va appeler la Vendée militaire. Alors, je vais vous montrer cette distinction importante à faire entre la Vendée en termes de département qu'on connaît aujourd'hui et la Vendée militaire. En fait, on appelle Vendée militaire, ça c'est les historiens au XIXe siècle qui ont donné ce nom-là, Vendée militaire. C'est pour désigner en fait tout le territoire qui s'est insurgé en 1793, mais ça ne comprend pas que la Vendée département. C'est pour ça qu'il y a souvent une confusion en fait avec le terme de Vendée. Puisque ce qu'on appelle la Vendée militaire, donc le territoire insurgé, ça comprend à la fois la Vendée départementale, mais aussi le Maine-et-Loire, qui se trouve ici au nord. Je sais pas si vous voyez le curseur, le Maine-et-Loire, la Loire inférieure, qu'on appelle maintenant la Loire Atlantique, mais qui s'appelait à l'époque la Loire inférieure, et les Deux-Sèvres, ici à l'est. Donc en fait, c'est quatre départements qui étaient concernés. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça la Vendée? Tout simplement, je pense parce que c'était plus simple à retenir plutôt que de dire les guerres du Maine-et-Loire ou les guerres de Loire inférieure, bon, ça ne fait pas trop guerre de Vendée, ça sonnait mieux. Et c'est aussi puisque l'une des toutes premières batailles, au moment de l'insurrection, s'est passée en Vendée. C'est une armée, vraiment une armée réglée, en fait, qui se trouve, enfin, c'était plus exactement des gardes nationaux, qui se trouvent battus, en fait, par des paysans. Et le pouvoir politique à Paris, eh bien, est surpris par cette défaite auquel ils ne s'attendaient pas, ils se sont demandé bah, où est-ce que ça s'est passé? En Vendée. Et donc désormais, dès qu'il va se passer quelque chose dans l'Ouest, ils vont appeler ça la Vendée. Donc c'est un petit peu un terme passe-partout, la Vendée, mais en fait, il faut bien distinguer ce qui est Vendée insurgée, donc Vendée militaire, et puis la Vendée départementale qui est beaucoup plus restreinte. Voilà, je permettais juste de faire ce petit éclairage, parce que sinon après, ça peut porter à confusion. Mais on appelle communément Vendéens, en fait, tous ceux qui sont insurgés, donc dans le camp royaliste. Il va y avoir ce qu'on appelle l'armée catholique et royale, et en fait, qui se trouve, que ce soit des habitants du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de Loire inférieure, peu importe, on va les appeler les Vendéens. En fait, c'est le nom générique. Alors, cette guerre de Vendée, bien sûr, il y a eu des. Comment dire? Ça, c'est. Il y a eu des tensions progressivement qui se sont mises en place, puisque. Donc ce territoire, vous avez compris, hein, quand je dis Vendée, c'est voilà, c'est tout ce territoire plus grand que la Vendée départementale. Ben, c'était un territoire qui était très religieux. Il y avait un catholicisme qui était très fort. C'est un territoire qui est essentiellement rural. Il y a très peu de grandes villes. Hein, vous voyez sur la carte, les grandes villes, elles se trouvent à l'extérieur du territoire, hein, Angers, Nantes, Il n'y a pas de grande ville à l'intérieur. Il n'y a que Cholet, qui est une grande ville, enfin, une ville plutôt moyenne, on va dire. Et La Roche-sur-Yon, à cette époque, c'était qu'un petit village, parce que vous savez, c'est Napoléon qui va faire de La Roche-sur-Yon la ville qu'on connaît actuellement, qui va en faire la préfecture de la Vendée. Donc, il n'y a pas de très grande ville dans le territoire. C'est essentiellement rural. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pendant les guerres de religion, donc 2 siècles avant, ce qu'on appelle le Poitou, donc la province qu'il y avait sous l'Ancien Régime, c'était un territoire qui était assez protestant. Et au début du XVIIIe siècle, il y a eu des mouvements de réévangélisation pour recatholiciser ce territoire avec... c'est beaucoup plus loin dans mon diapo. Ici, sur cette carte, c'est pour vous montrer les départements actuels, et en fait, qui correspondent à 3 anciennes provinces. Donc, vous avez le Poitou, avec donc la Vendée, les Deux-Sèvres, la Bretagne, qui se trouve en Loire-Inférieure, et l'Anjou. Donc, en fait, ça correspond à 3 anciennes provinces, mais 4 départements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je fais une toute petite digression avec la Révolution française, mais je vais aller très rapidement. On avait, sous l'Ancien Régime, une société qui était inégalitaire, puisque divisée en 3 ordres, mais qui correspondait aux mœurs, on va dire, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais progressivement, en fait, avec le XVIIe, XVIIIe siècle, le mouvement de centralisation du pouvoir royal, et puis l'émergence de la bourgeoisie, cette société d'ordre ne correspond plus à la France du XVIIIe siècle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des revendications venant essentiellement du tiers-État, symbolisé par ce député en noir. Puisque, vous savez, ces députés, en fait, vont être réunis par le roi Louis XVI en 1789, avec les États généraux, puisque la France se trouve en faillite, et elle est en situation de banqueroute, puisqu'elle a perdu beaucoup d'argent, elle a dépensé beaucoup d'argent, notamment avec la guerre d'Amérique, vous savez, où la France a combattu aux côtés donc, des insurgents contre les Anglais. Il y a eu différents ministres qui ont essayé de réformer l'État en vain, puisqu'on avait encore une société qui était profondément une société de privilèges, donc avec les pouvoirs des provinces, les pouvoirs des corporations, les pouvoirs des parlementaires aussi, avec le Parlement de Paris, qui avait donc des privilèges et qui refusait les réformes venant du pouvoir royal. Enfin bref, tout ça pour dire que la Révolution commence véritablement avec la réunion des États généraux. Et le but de ces États généraux, c'est de trouver une solution à cette situation financière qui est désastreuse. Et donc, qu'est-ce qui va... je vous passe sur les événements que vous connaissez, prise de la Bastille, tout ça, vous connaissez déjà, bien sûr. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui va arriver à la fin de l'année 89, c'est ce qu'on appelle la nationalisation des biens du clergé. Désormais, les biens du clergé n'appartiennent plus à l'Église, mais à l'État, puisque l'État cherche de l'argent, et donc où l'État va-t-il trouver cet argent? Eh bien, dans les biens d'Église. Donc déjà, ça passe assez mal auprès des populations qui sont très catholiques, essentiellement dans l'Ouest, puisqu'il y a des régions en France à cette époque qui étaient déjà beaucoup plus déchristianisées, mais comme j'ai dit, l'Ouest restait... très, très christianisé en raison du mouvement de conversion qu'il y avait eu au début du XVIIIe. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres, bon, je vous passe, tout ça, c'est ces épisodes, la fête de la Fédération, on a les noms dans une monarchie constitutionnelle qui prend fin avec la prise des Tuileries, avec les sans-culottes, et ici, sans-culottes, donc qui prennent le palais des Tuileries, le roi est déposé et la République est proclamée. Donc là, les massacres de septembre, Danton, donc les grandes figures révolutionnaires, Robespierre, Marat, bataille de Valmy, où, la République en danger, puisqu'en fait, la République, dès le départ, en fait, va déclarer progressivement la guerre aux autres pays européens pour exporter son modèle révolutionnaire. Alors, les révolutionnaires étaient divisés sur cette question. Il y en a qui voulaient d'abord raffermir la Révolution en France avant d'exporter à l'étranger, mais d'autres, qu'on appelle les Girondins, qu'on présente souvent comme plus modérés que les Montagnards, eh bien, eux, au contraire, voulaient exporter le modèle révolutionnaire, donc en déclarant la guerre, à ceux qu'ils appelaient les tyrans de l'Europe, c'est-à-dire les rois des monarchies européennes. Donc la France va se trouver isolée face à cette coalition étrangère, qui est d'abord repoussée à Valmy, mais ensuite les frontières vont être de nouveau menacées. C'est très important, parce que c'est directement lié aux guerres de Vendée. Je m'égare pas trop, là. Donc l'exécution de Louis XVI, là, vous savez que c'est un tournant radical, mais ce qui provoque vraiment la révolte vendéenne, c'est vraiment la persécution religieuse qui commence avec... En 1791, ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Je vous ai parlé de la nationalisation donc des biens de l'Église, mais il va y avoir aussi une volonté de réorganiser complètement l'Église de France à cette époque. Et désormais, les prêtres, les évêques, vont devenir des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent plus directement, ils ne dépendent plus financièrement de, eh bien de, je veux dire, de leurs propres biens, des biens d'Église et puis de Rome, mais ils dépendent directement de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui va très mal passer, et le clergé va profondément se diviser entre d'un côté ce qu'on appelle les prêtres jureurs, c'est-à-dire ceux qui vont prêter serment au pouvoir en place et à la constitution civile du clergé, et ceux qui vont refuser cette constitution civile du clergé, qu'on appelle les réfractaires. Excusez-moi. Est-ce que c'est... Je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à dire en introduction. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Alors, Olivier, tu avais une petite question. Je pense qu'on peut faire une brève...
Ouais, je reviens sur le Discord.
Vas-y, Olifax, impose-la directement. Ah, il n'a pas de micro. La déclaration de guerre à l'Europe royale n'était-elle pas due à un problème de légalisation, de législation sur les États frontaliers à l'Est?
Vous voulez dire par rapport au fait qu'il y avait des enclaves étrangères en Alsace et en Lorraine, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, parce que... en fait, le pouvoir révolutionnaire va très tôt en fait profiter pour annexer des territoires. Donc c'est le cas à Avignon. Vous savez, Avignon, ça appartenait au pape, c'est le comté avennessin. Et puis effectivement, il y avait les problèmes en Lorraine et en Alsace, en fait, où il y avait des principautés étrangères, mais qui étaient des enclaves dans le royaume de France. Donc effectivement, en fait, c'est vous avez raison de le souligner, parce que c'est ce qui va mettre le feu aux poudres, enfin je veux dire dégrader les relations entre l'empereur, donc c'est-à-dire l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et puis la France révolutionnaire. Effectivement.
Après, Arnaud, juste petite précision en plus. Je pense quand même que la première raison, si toute l'Europe se ligue contre la jeune France républicaine et révolutionnaire, c'est justement parce qu'elle devient républicaine et révolutionnaire et que tous les États, toutes les monarchies d'Europe ont un peu peur de... Ça peut remettre en cause la stabilité de leurs États. Et ça, je pense, Arnaud, de toute façon, tu allais sûrement l'évoquer, mais le début de la guerre commence surtout à cause du fameux manifeste de Brunswick, qui est une menace que lance le duc de Brunswick, qui commande l'armée prussienne, envers le gouvernement révolutionnaire, en disant « si jamais vous faites du mal à la famille royale, si vous touchez à la famille royale, la France sera envahie par toutes les armées d'Europe et sera mise à feu et à sang ». Je pense que les premières raisons de cette guerre elles viennent de là. Et effectivement, chacun après y a trouvé son compte par des concessions territoriales, récupérer quelques bouts de territoire. Mais après tout, même les guerres sous l'Ancien Régime se faisaient au nom de toutes ces raisons territoriales. Mais avec ces guerres révolutionnaires, la nouveauté, justement, c'est d'abord les puissances monarchiques qui se lient contre un État républicain et révolutionnaire. Je pense que c'est aussi une guerre des idées. Voilà. Je te
remercie. Bien sûr. Ouais, non, mais t'as raison de souligner ça. Mais effectivement, en fait, bien sûr, les souverains européens, ils sont très inquiets de voir la révolution parce qu'ils ont peur que ça s'exporte dans leurs États, ça, tout à fait. Mais la déclaration de guerre, quand même, l'acte de guerre vient de la France. Et en fait, c'est Louis XVI, en avril 1792, à ce moment-là, il était encore roi de France, qui, poussé par l'Assemblée nationale, en fait, a déclaré la guerre à son cousin, donc l'empereur, parce que vous savez que... Louis XVI est parent avec l'empereur, puisqu'il est l'époux de Marie-Antoinette, qui est la sœur de l'empereur. Mais vraiment, l'acte de guerre vient de la France, même si, bien sûr, il y avait déjà des tensions, et peut-être que les États européens auraient déclaré la guerre à la France au bout d'un moment. Mais c'est vraiment... comme je le disais tout à l'heure, c'est les Girondins qui étaient bellicistes et poussés à la guerre, justement, alors que, par exemple, Robespierre, alors qu'on pourrait le croire beaucoup plus radical, que les Girondins, lui ne voulait pas la guerre parce qu'il était conscient de la faiblesse de la France et qu'elle ne pourrait pas s'en sortir face à une coalition. Donc c'est vraiment les Girondins qui sont quand même porteurs, en fait, de cette guerre. Je ne sais pas si tu voulais rajouter, Charles.
Non, je suis entièrement d'accord. C'est bien de le préciser qu'effectivement, la France qui déclare la guerre parce que trop souvent, on dit l'inverse. Hein. Même moi,
Oui,
je
mais
sais
c'est
pas
vrai,
pour
ça,
la
c'est
Suède
vrai
la première
justement
temps.
qu'on dit souvent que c'est les États, les monarchies européennes qui se liguent pour déclarer la guerre à la France. Et en fait, dans tous les cas, c'est à chaque fois la France qui a déclaré la guerre. L'exception, c'était pour la Prusse qui a déclaré la guerre à la France, mais c'était par solidarité avec l'Autriche, puisque la France ayant déclaré la guerre à l'Autriche, la Prusse est rentrée dans la danse. Mais
C'est ça,
sinon, même
comme
l'Angleterre, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Angleterre, qui a
un
déclaré la guerre à
classique jeu
l'Espagne.
des alliances, comme au
Voilà.
final pour la Première Guerre mondiale ou les guerres qui vont suivre. Mais ouais, voilà, ouais.
Ouais. Et c'est vraiment important, ouais, effectivement, de souligner cette guerre européenne, puisque ça va expliquer en fait la radicalisation du pouvoir révolutionnaire, puisque le pouvoir révolutionnaire en fait se sent vraiment menacé à la fois aux frontières et puis à l'intérieur à cause des insurrections à la fois royalistes mais également girondines, puisque comme vous le savez en fait il y a cette lutte entre les factions, les Girondins d'un côté, les Montagnards de l'autre. C'est finalement les Montagnards qui vont l'emporter. En juin 1793, il va y avoir un coup d'État. Les Montagnards vont prendre le pouvoir, ils vont faire arrêter les Girondins, et d'autres Girondins vont réussir à s'échapper. Ils vont tenter de soulever les provinces, notamment la Normandie, Lyon aussi. Donc différentes parties de la France se soulèvent. Mais c'est pas que des insurrections royalistes. Voilà, il y a aussi des insurrections donc qu'on appelle fédéralistes, c'est-à-dire menées par les Girondins. Et c'est pour ça que le pouvoir révolutionnaire se sent vraiment menacé et qui va réagir de façon aussi violente, quoi. Puisque c'est l'idée de patrie en danger. Et que voilà, il y a deux ennemis à combattre, celui de l'intérieur et celui de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors oui, il y a deux autres questions.
Alors.
La première, la deuxième de HKMN parle, mais cette déclaration de guerre à un autre pays n'est-elle pas une attaque préventive dans l'idée où il pense qu'il vaut mieux attaquer que d'être attaqué?
Bah, en fait, dans le cas de la déclaration de guerre à l'Autriche qui a été faite par Louis XVI, il y avait un petit peu une double idée en fait. Louis XVI, c'est que bon, bah, il était bien sûr porté par ce mouvement belliciste, comme on disait avec les Girondins, mais en fait, il avait dans l'idée que si la France l'emportait contre en l'occurrence l'Autriche, eh bien le pouvoir de Louis XVI en sortirait grandi et il retrouverait en fait le pouvoir qu'il avait perdu. Alors qu'au contraire, si la France perdait, eh bien Louis XVI en serait aussi gagnant, puisque bah, à ce moment-là, son cousin viendrait le restaurer dans son ancien pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il avait un petit peu, il menait un peu double jeu, hein, parce que Louis XVI, même s'il avait une idée en 1789 de faire une monarchie plus moderne, tout ça, eh bien il est quand même conscient que depuis 1789, il n'est plus le maître du jeu, il est quand même prisonnier dans sa capitale. C'est pour ça qu'il avait tenté en 1791 de s'enfuir dans la place forte de Montmédy, en Lorraine, et pas de fuir à l'étranger comme on le dit souvent, mais c'était pour se réfugier dans une place forte pour, avec des troupes fidèles, ensuite reconquérir Paris, retrouver son pouvoir qu'il avait perdu.
Ah, j'aimerais quand même ajouter une petite précision parce que je vois les questions. C'est drôle, mais il faut surtout ne pas oublier que ce qu'il y a de nouveau avec la déclaration de guerre de 1792 et qui va lancer une longue série de guerres qu'on appellera les guerres révolutionnaires et napoléoniennes qui en sont la continuité jusqu'en 1815, c'est qu'il y a une notion vraiment nouvelle, c'est celle d'idéologie. C'est-à-dire on déclare la guerre par idéologie du côté français. C'est pour promouvoir et diffuser les idées révolutionnaires. C'est comme dit si bien, je sais plus quel acteur, dans Un taxi pour Tobrouk, on a envahi la moitié de l'Europe au nom du principe d'égalité et de liberté. Et donc ça, c'est totalement nouveau. Après, est-ce que des facteurs vraiment stratégiques et militaires entrent en compte avec des notions d'attaque préventive et tout ça? Oui et non. Peut-être que sur le terrain, les généraux, effectivement, étaient sur des vraies stratégies militaires. On attaque en avance, mais en tout cas, c'est un fait que cette guerre a été déclarée au nom d'abord de l'idéologie révolutionnaire. Et par exemple, je prends le cas de la Suisse, parce qu'on parlait de tous les petits territoires annexés ou occupés au début du conflit. Il ne faut pas oublier que la Suisse a bien subi cette guerre révolutionnaire. Voilà, l'idée, c'était d'aller soutenir les révoltes qui se produisaient dans le pays pour mettre en place une république sœur, comme on dit. Elle est importante, cette notion de république sœur. En Italie, c'est pareil. On s'est lancé dans les guerres en Italie. C'est pour développer des républiques sœurs. En Belgique, l'idée était la même aussi, c'était que les Belges se libèrent un peu de l'impérialisme autrichien. Donc c'est assez nouveau. sous l'ancien régime, c'est clair et net qu'on ne motivait pas les hommes au nom d'un idéal, combattre pour la liberté ou autre. Hein. On luttait éventuellement pour le roi, et puis après, les raisons, des fois, le simple soldat ne les comprenait pas trop. Mais ça, au moment de la Révolution, c'est très nouveau. On arrive à entraîner l'armée révolutionnaire. Les troupes, en leur parlant de notions d'idéalisme, voilà, donc en ça, c'est vraiment nouveau. Je ne sais pas si c'est vraiment la stratégie militaire ou l'idée de conquête territoriale qui... Enfin, j'en suis même quasiment sûr, c'est pas du tout ces facteurs-là qui entrent en compte dans la déclaration de guerre. Je pense qu'on est vraiment dans une guerre... par idéologie. Hein, on sait ce que ça donne après coup, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez nouveau.
Je pense qu'on peut repasser du coup sur le début des guerres de Vendée sur ton diaporama, Arnaud.
Ouais. Non mais ce qui est dit, c'est complètement en lien de toute façon avec le sujet. Hein, donc c'est vrai que les guerres de Vendée, il faut vraiment les penser en lien avec ce qui se passe à l'étranger. Et effectivement, Charles, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment nouveau avec la Révolution, on a vraiment cette l'idéologie qui est mise en avant. Et ben c'est aussi le moment où se forge le nationalisme, en fait. C'est vraiment une création de la Révolution, avec les fameux soldats de l'an 2, la patrie en danger. Mais malgré tout, quand même, il y a quand même une idée derrière les grands principes d'humanité, de libérer les peuples opprimés par les souverains européens, enfin ça c'est dans le discours, il y a quand même une volonté un peu plus terre-à-terre quand même pour la France, eh bien, de sécuriser ses frontières avec l'annexion de la rive gauche du Rhin. Je ne sais pas si j'ai une carte qui le montre, mais vous savez bien sûr que ça a toujours été un grand problème pour la France, c'est qu'elle a des frontières naturelles sur toutes ses frontières. Là, le Rhin ici, les Alpes, je ne sais pas si vous voyez bien le curseur là, les Alpes, les Pyrénées, bien sûr l'océan Atlantique, mais elle n'a pas de frontières naturelles au nord-est. Et ça, c'est un discours de Danton, je ne sais plus si c'est fin 92 ou début 93. Danton parle de la nécessité d'obtenir des frontières naturelles. Donc, c'est-à-dire en annexant cette rive gauche du Rhin. C'est ce que la France révolutionnaire va faire une fois qu'elle aura conquis la Belgique et une partie des Provinces-Unies, donc les actuels Pays-Bas. Elle va annexer donc la rive gauche du Rhin et ça deviendra des départements. Donc, bien sûr, il y a l'idée généreuse de libérer les peuples opprimés, mais derrière ça, il y a quand même aussi cette volonté qui date pas de la Révolution, hein, parce qu'on la retrouvait déjà chez les rois de France, hein, mais d'obtenir une frontière naturelle au nord-est. Je ne sais pas si tu es d'accord, Charles.
Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais on arrivait quand même à entraîner les simples soldats, à leur accepter de... Ça c'est important, c'est les accepter d'aller se battre aux frontières du pays, mal nourris, mal vêtus, avec un faible équipement et armement, au nom de la liberté à répandre à l'étranger, c'est quand même quelque chose d'assez... d'assez incroyable. Mais après, oui, il y avait effectivement des facteurs plus pragmatiques qui entrent en compte. Voilà, mais
c'est ce qui a fait la force, oui, effectivement, de l'idéologie révolutionnaire, c'est que c'est l'idée d'égalité, en fait, puisque avant, on a une société profondément inégalitaire, mais qui correspondait aux mœurs d'une certaine époque, où on n'était pas, les gens n'étaient pas égaux par naissance, mais par la place qu'ils occupaient dans la société. Bon, après, avec le développement de la société bourgeoise au XVIIIe siècle, eh bien, on a vraiment cette idée d'égalitarisme qui se développe et c'était très puissant puisque, par exemple, dans le cas de l'armée, les officiers, enfin, les personnes qui étaient d'origine roturière ne pouvaient pas, à la fin de l'Ancien Régime, ne pouvaient pas accéder au poste de haut gradé, en fait. Ça, c'est l'édit de Ségur juste avant la Révolution. Et donc, la noblesse se sentait menacée par la bourgeoisie triomphante. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est repliée sur elle-même. Et c'est ce qui a contribué à cette force du mouvement révolutionnaire, c'est que la volonté de que tous les gens soient égaux et qu'ils obtiennent des postes, non pas par leur naissance, mais par leur mérite. Et c'est le cas avec Napoléon, avec tous ses maréchaux, même s'il y en avait certains qui étaient d'origine noble, il y en a beaucoup qui étaient de simples roturiers.
Ouais. On va essayer à Arnaud de se rediriger vers les guerres de Vendée, parce que là, on s'est vraiment éloigné sur les frontières du pays.
Je lise la question, puisque très peu... C'est quoi la question
Non, c'était oui, effectivement, La France était effectivement la bête noire, ou la grande bête, comme a mis cet auditeur, de toute l'Europe. Oui, je dis pas, c'était l'ennemi numéro un. Et ça a quelque chose d'impressionnant. C'est vrai qu'on a ligué quand même toute l'Europe contre nous et on a réussi à résister à bon nombre d'armées. Mais effectivement, on peut dire qu'on a fait peur un peu à tout le pays. Après, par rapport à la dernière phrase, démographiquement. Oui, ça, je ne crois pas que ça soit propre à la période révolutionnaire, parce que même sous l'Ancien Régime, on était déjà une des plus grandes puissances d'Europe, voilà, tant militaire
Ah oui, bien
en
sûr.
matière d'économie, et puis ouais, oui, démographiquement aussi. Mais
Oui.
là, ce qui fait plutôt peur au moment de la période révolutionnaire, c'est idéologiquement, ce qu'on est capable de faire au nom de l'idéologie révolutionnaire. Je pense que c'est important, mais voilà. On va peut-être ouais, vraiment, Arnaud, revenir vers les guerres de Vendée, parce que sinon, là, on peut en parler pendant longtemps.
C'est sûr, ouais. Donc, mais effectivement, la France était un pays encore prospère avant la Révolution, et démographiquement, c'était le pays le plus peuplé d'Europe jusqu'à la Révolution. Après, c'est la Russie qui va passer devant la France. Alors, je reviens donc je sais plus où on était rendu, on parlait du fait que la Vendée, c'était un territoire très catholique, puisqu'il y a eu au début 18e. Ah mince, il faut que je revienne depuis le début. C'est moi, j'ai mal fait le truc. Et donc, Saint-Louis-Marie Guillaume de Montfort, au début du 18e siècle, a réévangélisé ce territoire qui était assez protestant, notamment dans la noblesse, puisque la noblesse du Poitou, donc le Poitou, une des anciennes provinces qui correspond à l'actuelle Vendée, eh bien, Vendée de Sèvres et Vienne, donc c'est l'ancien Poitou, eh bien, cette noblesse était très protestante, puisque c'était une noblesse qui a toujours été assez frondeuse vis-à-vis du pouvoir royal. Et donc le fait d'être protestant, c'était aussi une manière, il n'y a pas que ça bien sûr, mais c'était aussi, il y avait aussi un côté politique, c'était aussi pour la noblesse une manière de s'opposer au pouvoir royal qui était de plus en plus fort au cours du XVIe, XVIIe siècle. Donc Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort a recatholicisé ce territoire, et c'est pour ça que la population est très attachée à ses prêtres, donc les fameux prêtres réfractaires qui ont refusé la constitution civile du clergé. Ici, vous voyez. Donc un tableau où le prêtre est en fait en train de célébrer la messe. Ça a l'air d'être dans un grenier. Beaucoup célébraient la messe dans les bois, vraiment dans des endroits cachés, parce que sinon ils étaient capturés, ces prêtres, pour être emmenés en déportation dans plusieurs endroits, notamment à La Rochelle ou sur les pontons de Rochefort, pour ensuite être emmenés. Alors, le problème, c'est que ces prêtres ont été entassés sur les pontons de Rochefort pendant des mois et des mois. Il y en a beaucoup qui sont morts de maladies. Et après la Terreur, après la chute de Robespierre, ces prêtres vont être emmenés en Guyane, en déportation en Guyane. C'est ce qu'on appelait la guillotine sèche. C'est-à-dire qu'ils mouraient de faim, ils mouraient de maladie à cause de l'humidité. Voilà. Donc c'était une autre manière pour tuer ces prêtres. Donc toujours est-il que ça va vraiment dresser la population contre le pouvoir révolutionnaire à Paris. Donc en fait, il faut bien penser, et c'est une différence, mais Charles va nous en parler un peu plus. Sans doute une des différences avec la chouannerie, c'est que les guerres de Vendée, c'est vraiment une origine religieuse et pas tant politique finalement, même si bien sûr après il va y avoir l'idée du roi qui va être défendu, mais c'est surtout la volonté de défendre les prêtres pour ces populations, puisque le prêtre, en fait, c'est, il faut imaginer à l'époque quelqu'un qui ne sort jamais de son village, le prêtre, c'est celui qui coordonne la vie de ses communautés, qui est là en permanence, qui fait les baptêmes, qui fait les mariages, les sépultures. Donc c'est vraiment, les Vendéens sont très attachés à ceux qu'ils appellent leurs bons prêtres. Et donc le fait qu'on les persécute, ces bons prêtres, bah, forcément, les Vendéens vont être hostiles au pouvoir politique. Et de plus en plus. Et la pression monte. Ici, vous voyez sur ce vitrail, c'est un épisode célèbre d'un Vendéen qui s'appelle Paul Barillon, à qui des gardes nationaux, vous savez, des gardes nationaux, ce sont des personnes du peuple, mais plutôt issues de la bourgeoisie, qui étaient en fait une garde révolutionnaire, en fait, qui est là pour défendre les intérêts, on va dire, de la bourgeoisie d'une certaine manière, et puis la révolution face à d'éventuelles menaces. Donc dans chaque village, dans chaque commune, il y avait une garde nationale. Donc là, ce sont des gardes nationaux qui demandent à ce Paul Barillon d'abattre une croix. Et en fait, ce Paul Barillon s'est retourné contre les gardes nationaux en disant rends-moi mon Dieu. Et puis en fait, donc il a été abattu par les gardes nationaux. Et ça, on est avant l'insurrection de 1793. Donc tout ça, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'en fait, les tensions montent de plus en plus. Et ce qui va faire, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, alors bien sûr, il y a la mort de Louis XVI qui va choquer les populations, mais c'est pas ça qui va être l'élément décisif. C'est ce qu'on évoquait justement tout à l'heure, cette menace aux frontières. eh bien, la République, étant donné qu'elle ne trouve pas de troupes pour s'engager de manière volontaire, enfin, il y a eu des volontaires, bien sûr, il y a eu beaucoup de volontaires, mais pas suffisamment, puisqu'il y a donc des défaites aux frontières, donc il faut toujours trouver de nouvelles troupes, hein, de la chair à canon, on pourrait dire. Et donc, il va y avoir, en février 1793, une loi très importante, c'est la levée en masse de 300 000 hommes. C'est-à-dire que la Convention, donc l'Assemblée révolutionnaire à Paris, va demander la levée en masse de 300 000 hommes. Or, c'était de l'âge de 18 à 40 ans pour les célibataires, donc ça concernait qu'une partie de la population, mais quand même, donc les Vendéens vont être hostiles à cette conscription, donc le fait de partir aux frontières pour défendre un régime qui, jusqu'à présent, eh bien, n'a pas tenu ses promesses, considère-t-il, puisque, comme je l'ai dit au début, il n'était pas du tout hostile à ce qu'il y ait des changements en 1789. Hein, je pense que, bien sûr, on voit ça de notre époque, mais en 1789, beaucoup de gens voulaient des changements, étaient conscients que la monarchie eh bien, devait se réformer, mais les promesses n'ont pas été tenues. Il y a aussi un aspect économique aussi, comme je l'ai dit, les biens nationaux ont été saisis les biens de l'Église ont été saisis par l'État pour ensuite être revendus. Et qui va profiter de ces biens nationaux, à votre avis? On peut faire sous la forme de questions pour rendre un peu plus interactif. À votre avis, qui va être bénéficiaire de ces biens nationaux?
Comme ça, j'aurais dit la bourgeoisie.
Voilà, bah exactement. Ceux qui ont les moyens d'acheter justement les biens nationaux. Donc c'est la bourgeoisie qui va s'enrichir considérablement avec les biens nationaux, et ça, les biens nationaux, c'est une question très importante, même au 19e, puisque la bourgeoisie, elle va accepter les changements politiques à partir du moment où on ne remet pas en cause justement ces biens nationaux. Et même les rois, quand ils reviendront au 19e avec Louis XVIII, ils ne vont pas remettre en cause ces biens nationaux, quoi, puisque ce serait s'aliéner la bourgeoisie. Et donc, il y a aussi le fait que les paysans supportent mal le fait que les bourgeois, par exemple, sont exemptés de la conscription. Alors, ils ne sont pas exemptés en tant que tels, pour bien préciser les choses. En fait, c'est qu'ils ont les moyens de se payer ce qu'on appelle un remplaçant. C'est-à-dire que pour la conscription, en fait, c'est un tirage au sort. C'est-à-dire que chaque personne, donc les personnes concernées entre 18 et 40 ans, viennent au bureau de recrutement et ils doivent tirer une bille au hasard. Je ne sais plus, je crois que la bille blanche, c'est on doit partir et la bille noire, on reste, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais toujours est-il que les bourgeois... Eh bien, c'est l'inverse. Je ne sais plus
sur la noire qui porte malheur, tu t'en vas, la blanche qui reste, ouais. Ouais, je crois.
et en fait, donc il y a des bourgeois qui en fait donc se payent quelqu'un d'autre pour partir à leur place, donc contre rémunération bien sûr pour la famille, mais donc du coup ça passe mal auprès des paysans. Et il y a aussi le fait que par exemple les officiers municipaux, ceux qui ont une charge, bah, qui sont gardes nationaux par exemple, ne partent pas non plus, puisque justement ils ont une charge, qui fait qu'ils sont exemptés de partir à la guerre. Donc les Vendéens supportent mal finalement ce deux poids deux mesures, et c'est pour ça qu'il va y avoir des premières émeutes qui vont éclater. Donc dès mars 1793, le premier endroit où il va y avoir une émeute, ça va être à Saint-Florent-le-Vieil. Si je vous montre une carte, voilà la carte de l'insurrection. Donc vous voyez donc les départements, la Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres et Maine-et-Loire. Ici la Loire, donc Saint-Florent-le-Vieil, c'est une ville qui se trouve ici en bord de Loire, et c'est de là que va partir l'insurrection le 10 mars 93. Mais après il va y avoir des insurrections, des soulèvements, enfin des émeutes un petit peu partout, notamment à Machecoul le 11 mars 93, où la population, il va y avoir des massacres de gardes nationaux, et ça c'est souvent cet exemple de Machecoul qui va être repris ensuite par les républicains pour montrer que les Vendéens sont sanguinaires et qu'ils ne font pas de quartier à leurs prisonniers. Alors que, au contraire, bien sûr, il y a eu je dis pas le contraire, il y a eu des exactions commises contre des républicains, mais on va voir qu'à de très nombreuses reprises, les Vendéens vont gracier leurs prisonniers, notamment à Saint-Florent-le-Vieil quelques mois plus tard. Mais toujours est-il qu'en quelques jours seulement, il y a plus de 600 paroisses, donc sur la rive gauche de la Loire, tout ce territoire en jaune qui se soulève contre la Convention, et ça va vraiment très très vite. Hein. Et c'est pas du tout, contrairement à ce qu'a dit une certaine historiographie au 19e siècle républicaine, c'est pas du tout quelque chose qui a été préparé par la noblesse et par le clergé, puisqu'au contraire, les nobles se sont trouvés complètement dépassés par ce mouvement. Et au début, c'est vraiment une insurrection populaire. Et c'est le peuple qui, au début, va se trouver des chefs. Parmi les chefs, on a, donc ici, vous avez des combattants vendéens, avec le Sacré-Cœur qui va être leur symbole, leur insigne, qu'ils vont tous porter sur la veste, puisqu'ils se revendiquent tous comme étant des soldats du Christ, en fait, hein, contre la Convention qu'ils considèrent comme un régime impie, puisque c'est un régime qui persécute leurs prêtres. Donc ici, Jacques Capineau, qui est un des premiers chefs vendéens, il est issu du peuple, hein, complètement, puisqu'il est colporteur voiturier, donc il n'est pas du tout noble, et c'est le cas avec un autre chef qui s'appelle Stofflet, que vous avez ici, qui est un garde-chasse, lorrain, et qui vit en Vendée, enfin à Molivrier exactement. Et donc tout ça pour vous dire que les premiers chefs sont vraiment issus du peuple. Mais c'est ensuite que les paysans vont aller chercher les nobles qui n'ont pas immigré, c'est-à-dire qui ne sont pas partis à l'étranger, puisqu'il y en a encore un certain nombre qui restent en France, hein, bien sûr. Mais c'est de la petite noblesse, hein. Ce n'est pas du tout de la grande noblesse de cour, c'est vraiment de la petite noblesse campagnarde qui souvent n'a pas beaucoup de différence avec le peuple au niveau de ses conditions de vie. Et donc c'est vraiment le peuple qui va aller chercher cette noblesse et qui va l'obliger même à se porter à leur tête, alors qu'au début, ces nobles bien comprennent qu'il n'y a pas vraiment d'espoir dans cette insurrection, puisque ces nobles ont tous la particularité d'être des anciens militaires. Et c'est pour ça que les paysans vont les chercher. Donc c'est le cas de Delbé, qui est un ancien, du régiment de Saxe, Bonchamp, qui est un autre grand chef vendéen, qui lui avait combattu pendant la guerre d'Amérique, il avait combattu aux Indes. Ici on a La Roche-Jacquelin, le fameux La Roche-Jacquelin, qui lui était un officier dans la garde royale de Louis XVI et qui s'était battu aux Tuileries. Et Lescure, qui est un autre militaire également, et qui est le cousin de Monsieur Henri. On a vu Monsieur Henri, c'est le surnom que les paysans vont donner à Henri de La Roche-Jacquelin. Donc dans tous ces cas, et bien sûr dans le cas de Charette, hein, ce qui est à peu près, voilà, Charette, donc qui est un ancien officier de marine, et bien que les paysans vont également aller chercher. Donc tout ça pour vous dire vraiment que les gardes Vendée, c'est vraiment une insurrection populaire. Mais ensuite, il va y avoir les nobles qui vont être mis à la tête du mouvement. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, question, non. Petite remarque. Il n'y a pas une histoire assez rigolote sur de La Roche-Jacquelin, non. Monsieur Henri.
Il y a quoi?
Un chef vendéen qui aurait à peine 23 ans, si je me souviens bien, et qui a été cherché, que les Vendéens ont été cherchés sous son lit.
Oui, ça c'est Charette, oui. Charette aurait été un peu plus âgé, il avait 30 ans à ce moment-là, mais effectivement, il y a l'anecdote, Charette refusait de partir, et il se serait même caché sous son lit, voilà, effectivement, parce qu'il ne voulait pas partir. Mais après, il a compris finalement qu'il ne pouvait pas faire autrement, et il a pris son armée en main en disant « c'est moi qui commande désormais, celui qui ne m'obéit pas, je lui casse la tête », puisque au début, comme toute insurrection populaire, il y avait des... Ça partait dans tous les sens, forcément. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a eu ces massacres de Machecou le 11 mars. Mais ensuite, quand les nobles vont prendre en main la révolte, ils vont essayer d'apporter une discipline et éviter les exactions autant que possible. Et c'est pour ça qu'à de très nombreuses reprises, après les combats, les prisonniers républicains vont être quasi systématiquement graciés. Alors, ce n'est pas le cas de tous les chefs, parce qu'on a un chef qui se trouve ici, qui s'appelle Marigny, qui lui était justement, bien qu'il était très aimé de ses hommes, il n'était pas aimé des autres chefs vendéens, puisque lui était beaucoup plus dur, et il voulait en fait appliquer aux républicains le même traitement que les républicains appliquaient aux vendéens, c'est-à-dire les fusiller sans ménagement. C'est un petit peu l'exception. Mais il n'empêche qu'il était quand même très aimé de ses hommes, et c'est pour ça que l'insurrection vendéenne, en fait, c'était des petites armées, il n'y avait pas du tout de mouvement unifié, il y avait des chefs un petit peu partout. Et c'est après, seulement au mois de juin, au mois de juin 93, qu'on va essayer d'unifier tout ce mouvement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Les gardes nationaux sont avec qui? Royalistes ou républicains? Les gardes nationaux, ils sont essentiellement issus de la bourgeoisie, donc ils vont être plutôt côté républicain. Après, il y a sans doute eu des cas de gardes nationaux qui ont pu rejoindre les royalistes, mais globalement, ils sont... fidèles au pouvoir en place, donc ils sont côté républicain. Mais il y a quand même des exceptions, hein, parce que par exemple, Lescure, lui, il était commandant de la garde nationale de son village à Boimé, en Deux-Sèvres. Ouais. Donc il y a quand même des exceptions.
Et petite précision, en fait, la garde nationale, c'est rien de nouveau, ça reprend les milices qui existaient déjà sous l'ancien régime. Après, c'est même l'appellation qui est nouvelle, et puis le fait que ça soit devenu un corps très politisé. Mais après, on a vu au début de la Révolution, et même en Vendée, je ne saurais plus citer de cas concrets, mais des gardes nationaux qui se revendiquaient catholiques et royales, enfin qui au début ont pris fait et cause pour le mouvement contre-révolutionnaire. Voilà. Mais c'est un organe, oui, c'est effectivement une force très très politisée, oui.
Ouais. Oui, il y a eu des cas, il y a eu d'autres chefs aussi qui étaient issus des gardes nationales, hein, comme le chef Gaston qui était dans le Marais. Donc,
On
les
oublie.
soldats républicains. Oui, pardon.
Ouais, juste la dernière petite anecdote, on
Pardon.
oublie aussi que par exemple, lors de la prise des Tuileries, quand les sans-culottes attaquent le château des Tuileries, ce qui provoque la fuite de la famille royale qui va se réfugier à l'Assemblée, pardon, et surtout le massacre des 300 gardes suisses qu'on présente comme les derniers défenseurs de la monarchie, on oublie qu'il y avait quand même eu, avec ces 300 gardes suisses qui ont été massacrés, une cinquantaine de gardes nationaux qui venaient, je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était les.
Bataillon des filles de Saint-Thomas, je crois.
Voilà, tout à fait. Qui effectivement, eux, sont restés fidèles jusqu'au bout à la
Ouais,
royauté. Donc,
eux, il y a des cas.
je sais pas.
Ouais,
Oui, c'est
effectivement.
des cas isolés, mais il faut pas être trop dans le. Voilà, pas oublier quand même ces gardes nationaux-là qui ont sacrifié leur vie pour la cause royale, quoi. Mais oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais dit que l'expression charrette venait de là. Cinquième roue de la charrette.
Alors juste une question pour vous, Arnaud, on a un code, je t'ai partagé un peu plus haut l'image. Quand on veut poser une question, on met un petit point d'interrogation. Quand on veut
D'accord.
prendre la parole, un petit point d'exclamation.
D'accord.
Ça peut t'aider à repérer les questions dans le.
D'accord. Parce qu'étant donné que je mets le diapo en même temps, c'est pour ça que je ne vois pas forcément.
Et on peut te proposer de lire les questions, hein, comme ça tu peux rester sur
Ouais, d'accord. Ok, pas de souci. Pas de souci. Alors, en face, donc on a les républicains, donc aussi bien les gardes nationaux que vous avez ici à gauche, que des soldats de métier qui vont ensuite intervenir en Vendée, et on les appelle tous sous le nom de bleus. Alors pourquoi bleu? Parce que c'est tout simplement la couleur de leur uniforme. C'est pour ça que les Vendéens, on va les appeler les blancs, parce que le blanc, c'est la couleur de la monarchie, le drapeau blanc, le drapeau royal, et les bleus, donc ce sont les soldats républicains. Voilà, on dit blanc et bleu. Alors en fait, donc l'insurrection, elle prend très rapidement, comme on l'a dit, au mois de mars 93. Il va y avoir beaucoup de victoires remportées par les insurgés. Au début, parce que ce sont de simples paysans, hein, la plupart, hein, donc ils se battent avec des faux, des fourches, des bâtons même. Mais progressivement, ils vont s'armer avec des fusils, comme vous voyez ici sur ce vitrail. Et ils s'emparent donc des armes prises sur les républicains, notamment aussi des canons. Il y a un canon très célèbre des Vendéens qui s'appelle la Marie-Jeanne. Ils l'ont appelé la Marie-Jeanne, parce que c'est devenu la mascotte en fait des Vendéens, et donc une pièce d'artillerie qu'ils ont prise sur les Bleus. Et donc il y a beaucoup de cas comme ça d'armement pris sur les soldats républicains. Alors ici, le pater de Delbé, donc Delbé, c'est un des chefs vendéens qu'on a évoqué. Eh bien, c'est un exemple parmi d'autres, hein, on pourrait en citer beaucoup d'autres des exemples, mais un exemple très célèbre où Delbé va s'interposer après une bataille, donc c'est la bataille de Chemillé en Anjou, donc dans le département de Maine-et-Loire. Il y a plus de 400 prisonniers républicains que vous voyez ici, qui vont être enfermés dans l'église de Chemillé, l'église Saint-Pierre de Chemillé. Et les Vendéens ont eu tellement de pertes pendant cette bataille, c'était une victoire à la Pyrrhus, hein, ils ont eu beaucoup de morts. Eh bien, les Vendéens veulent se venger. Et donc, alors, bien sûr, c'est un tableau du 19e qui idéalise, mais Delbé, en fait, il a voulu s'interposer au départ, puis il a dit, bon, très bien, vous voulez massacrer ces républicains, d'accord, mais avant, on va réciter le Paternoster, le Notre Père. Étant donné que la plupart, même tous les paysans sont catholiques, hein, très catholiques, eh bien ils se mettent à genoux et tout le monde récite le Paternoster. Donc vous connaissez bien sûr le Paternoster. À un moment, il y a le passage Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Delbé eh bien, coupe la prière en disant Malheureux, vous demandez à Dieu de pardonner comme vous vous pardonnez. Et donc les Vendéens ne savent pas quoi répondre et ils s'en vont. Donc les prisonniers sont sauvés. Donc c'est un exemple parmi d'autres, on pourrait en citer hein, d'autres, mais bah, c'est un exemple pour vous montrer que globalement, même si bien sûr il y a eu des républicains qui ont été tués, hein, c'est une guerre civile c'est jamais propre, mais quand même dans énormément de cas, énormément de batailles, après les combats, eh bien les chefs vendéens s'interposent pour gracier les prisonniers républicains. Donc ici on a le fameux La Roche-Jacquelin qui est très connu puisque c'est un des plus jeunes chefs vendéens, il a seulement 20 ans, et on en a même des plus jeunes encore, hein. Il y a un simple paysan qui s'appelle Forestier, à qui on confie la cavalerie vendéenne. Alors, quand on dit cavalerie, c'est un bien grand mot, hein, parce que c'est des cavaliers vraiment de fortune, hein, avec à peine, il y en a qui n'avaient même pas de selle, hein, ils avaient juste des cordages en guise de rennes. mais lui, il n'avait que 18 ans, Henri Forestier. Donc Henri, 20 ans, et il a cette fameuse phrase qu'il déclame quand les paysans viennent le chercher en son château à la Durbelière. Il dit « Si j'avance, tuez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » C'est une phrase qui a beaucoup de panache. Alors, il faut faire attention aussi dans les gardes vendées, parce qu'il y a beaucoup de phrases, de citations qui viennent des historiens du 19e siècle. Mais cette phrase semble être avérée. En fait, elle aurait été vraiment dite par M. Henri. Par contre, il y a d'autres citations, notamment de Charette, qui en fait sont apocryphes. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de distinguer ce qui est vraiment de l'époque et ce qui tient de la reconstruction après au 19e siècle. Donc il y a beaucoup de batailles, de victoires vendéennes au début, notamment la place forte de Thouars qui est prise par les Vendéens. Et on voit justement donc Monsieur Henri qui monte sur les épaules de ses hommes et qui fait une brèche à main nue dans la muraille. Donc progressivement, les Vendéens s'emparent d'un vaste territoire et ils menacent les grandes villes qu'on évoquait, Angers, Nantes, Luçon, les Sables-d'Olonne. Mais en fait, les Vendéens, ils arrivent à tenir la campagne, mais ils ont des difficultés à s'emparer des villes. Puisque les Vendéens, étant donné que ce sont des paysans, ce n'est pas une troupe réglée, ce n'est pas une troupe régulière, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu une bataille, eh bien, les Vendéens retournent chez eux. Ils repartent dans leur ferme, et on appelait ça changer de chemise, c'est-à-dire qu'ils retournent dans leur ferme pour faire les travaux des champs. Et donc, ça désespère les chefs vendéens, puisqu'ils n'arrivent pas à maintenir sous les drapeaux les paysans. Il n'y a que quelques exceptions, parce qu'on a des déserteurs républicains qui ont rejoint les Vendéens, on a par exemple des anciens soldats suisses qui ont combattu avec les Vendéens, donc ça c'est un petit peu l'exception en fait, et cette exception en fait forme une troupe régulière, mais la très grande majorité des troupes des troupes vendéennes en fait sont des paysans qui sont là par intermittence quoi, quand il y a besoin, mais ensuite ils repartent au champ. Donc c'est ce qui fait la faiblesse de cette armée vendéenne. Ici on a le mont des Alouettes à côté des Herbiers, c'est tout près du Puy du Fou. C'est un haut lieu des gardes vendées, puisqu'il y avait 7 moulins sur cette colline, il n'y en a plus que 2. Et en fait, les moulins ont joué un rôle important, puisque ça permettait de délivrer des messages en fait, pour les Vendéens. Alors, il y avait beaucoup de moulins à cette époque-là, mais il y a beaucoup de moulins qui ont été détruits par les républicains. Donc, il y avait vraiment un langage en fonction de la position des ailes du moulin. Ça voulait dire une certaine chose. Par exemple, ça voulait dire ici, on voit les bleus approchent, les bleus s'en vont. Rassemblement et repos. Donc voilà, en fonction des ailes des moulins. Alors ici, Louis XVII, c'est le fils de Louis XVI qui, aux yeux des royalistes et des Vendéens, est le roi légitime. Mais c'est également le cas pour tous les autres pays en guerre contre la France. Louis XVII est considéré comme le roi légitime, mais il est enfermé à la prison du Temple à Paris. Et c'est pour cet enfant, qui a seulement 8 ans, que les Vendéens se battent. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon on va y être encore pendant longtemps. Bataille de Saumur, une autre grande victoire vendéenne. Et cette bataille est importante, puisque à ce moment-là, l'armée vendéenne est à son apogée. Elle tient un très grand territoire, et le fait qu'elle ait pris Saumur, eh bien, elle a coupé les communications républicaines sur la Loire. Et à ce moment-là, on ressent la nécessité de confier à un seul homme l'ensemble de l'armée, qui devient l'armée catholique et royale, et à qui on va confier... le commandement, je ne sais pas si certains, Charles n'a pas le droit de répondre. Non ?
Je crois que non.
À votre avis, est-ce que c'est quelqu'un qui est issu de la noblesse ou est-ce que c'est quelqu'un qui est issu du peuple à qui on va confier cette armée ? Bon.
Tu peux aller voir sur le chat qui peut blanc aussi.
Je peux regarder, excuse-moi.
Ah, mais t'as pas de réponse sur le chat.
Mais...
Oui,
bien vu, Loutre. c'est effectivement quelqu'un du peuple. Et c'est très important de le souligner parce que donc cet homme s'appelle Catlino, donc on a évoqué tout à l'heure. C'est à lui qu'on va confier le grade de généralissime de l'armée catholique et royale, alors qu'il n'a aucune expérience militaire, mais c'est simplement parce qu'il est très brave et qu'il est très aimé de ses hommes, qui sont prêts à le suivre n'importe où, hein, se faire tuer pour lui, tellement il est aimé de ses hommes. On le surnommait le Saint de l'Anjou. Le Saint de l'Anjou, parce qu'il était très pieux. Ici, l'escure que vous voyez, qui est un autre chef à qui il donne l'épée de généralissime, a été surnommé le Saint du Poitou, parce qu'il était aussi très pieux. Donc c'est pour ça qu'en fait cette guerre, elle est vraiment d'essence religieuse. Il y a vraiment cet aspect religieux qui est prédominant dans les guerres de Vendée, qui est moins le cas dans la chouannerie, comme Charles l'évoquera tout à l'heure. Et là aussi, c'est important de souligner, donc Catelineau, qui est un homme du peuple, dirige l'armée vendéenne royaliste, alors qu'en face, l'armée républicaine est commandée par des nobles. Et c'est ça qui est très étonnant. L'armée républicaine est commandée par beaucoup de nobles qui sont issus de l'ancienne armée royale, qui ont ensuite rejoint la République. C'est le cas du duc de Biron, on disait ci-devant, puisque à ce moment-là, il ne faisait pas bon être noble, donc on enlevait sa particule pour faire oublier sa particule. Mais Biron, donc, était issu de la très haute noblesse sous l'Ancien Régime, et pourtant il commandait l'une des armées républicaines qui combattait contre les Vendéens. Mais il y a beaucoup d'autres généraux républicains qui sont d'origine noble. On peut en citer énormément. Il y a Canclot, il y a même Marceau, s'il était d'origine noble, il y a Boulard, enfin, il y a beaucoup d'anciens nobles. Mais après, progressivement, au cours de la guerre, étant donné que le pouvoir révolutionnaire va se radicaliser, eh bien, les généraux nobles vont être soit démis de leurs fonctions, soit envoyés à la guillotine, puisqu'on va les suspecter d'être des traîtres, et ils vont être remplacés par de braves jacobins, mais qui n'ont aucune expérience militaire, comme Rossignol, par exemple, mais simplement parce que c'était d'ardents révolutionnaires, eh bien, on leur confie des très hauts grades dans l'armée. Mais ça va s'avérer désastreux pour l'armée républicaine. Donc, comme je disais tout à l'heure, au moment de l'été 93, c'est vraiment le moment où le pouvoir révolutionnaire se sent le plus menacé, puisqu'il y a à la fois les insurrections royalistes, mais également les insurrections fédéralistes, un peu partout en France, et puis les armées étrangères qui avancent sur les frontières. Puisque la Belgique, qui avait été occupée en partie par les révolutionnaires, eh bien, elle va être évacuée au début de l'année 93, puisqu'il y a celui qui commande l'armée du Nord, qui s'appelle Dumouriez, au début de l'année 93, il va trahir la République pour rejoindre l'armée autrichienne. Puisqu'il savait que... Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'en fait, il ne faisait pas bon, au moment de la Révolution, d'être un général. Pourquoi? Parce que si vous perdiez une bataille, vous étiez considéré comme un traître. Et il y a énormément de généraux qui pourtant étaient de très bons républicains, eh bien, qui ont été démis de leurs fonctions et même guillotinés, parce qu'ils avaient perdu des batailles. Ça peut paraître étonnant, et c'est pour ça que la Convention, qui se méfie énormément des généraux, surtout après la trahison de Dumouriez, bien, va envoyer des députés, qu'on appelle des représentants du peuple en mission. C'est un petit peu, si je peux faire ce parallèle, la même chose en URSS avec, vous savez, les commissaires du peuple, donc qui sont envoyés auprès des généraux pour les surveiller justement dans leur commandement. Pour être sûr qu'ils font bien tout ce que la Convention demande et pour être sûr qu'ils ne trahissent pas pour rejoindre l'ennemi. Voilà. Et l'été 93, ça marque aussi un tournant dans les guerres de Vendée, puisqu'on a la bataille de Nantes, qui est la très grande ville dans la région, qui est bien sûr très républicaine, comme toutes les villes. Hein, toutes les villes sont républicaines, alors que les campagnes sont royalistes. Et les Vendéens vont tenter de s'emparer de Nantes, mais ça va être un échec. Excusez-moi. Puisque Catelineau, que vous voyez ici en gravure, va être blessé à mort sur l'actuelle place Viarme, qu'on appelait la place des agriculteurs. En fait, c'est un tireur embusqué d'une fenêtre qui va le blesser grièvement. Alors que les Vendéens étaient à deux doigts de s'emparer complètement de la ville, les autorités de Nantes étaient prêtes à capituler, mais il y avait encore des défenseurs dans le centre-ville. Et le fait que Catelineau soit blessé à mort, eh bien, les paysans vendéens n'écoutent plus les autres officiers. Et ils battent en retraite, ils abandonnent la ville parce que leur chef bien-aimé est à terre. Et il va mourir quelques jours après à Saint-Florent-le-Vieil, le 14 juillet, ça ne s'invente pas, le 14 juillet 93. Et très rapidement, on va avoir l'armée républicaine qui va réussir à pénétrer jusqu'au cœur du pays insurgé, qui va porter le feu à travers les villages et les châteaux. Et ici, on a un célèbre général républicain qui est alsacien, qui s'appelle Joseph Westermann, qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Puisque pourquoi était-il aussi sanglant? Tout simplement parce qu'il veut montrer au pouvoir révolutionnaire qu'il n'est pas un tiède, qu'il n'est pas un modéré, puisque, comme je vous disais, chaque général a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de lui. Donc il veut montrer qu'il n'est pas modéré. En plus, il est ami de Danton. Et Danton va très vite, parce qu'il y a un conflit avec Robespierre, Danton va être très vite considéré comme un modéré. Il fait partie de la faction des indulgents. Et donc c'est pour ça que, étant donné que Westermann est proche de Danton, enfin en tout cas c'est... Ça a été contesté ensuite, ce lien, mais en tout cas, aux yeux des montagnards, il est considéré comme un potentiel modéré. Donc, c'est pour ça que Westermann va être très, très, très sanguinaire en Vendée, puisque justement, il voulait aussi sauver sa tête, d'une certaine manière, et montrer qu'il était un pur révolutionnaire. Donc ici, c'est le château de la Durbolière, c'est le château d'Henri de la Rojaclin qu'on évoquait tout à l'heure, qui va être brûlé une première fois par Westermann, mais il va ensuite être brûlé à 4 autres reprises pendant les guerres de Vendée. C'est pour ça que ce château, maintenant, est en ruine, mais il faisait énormément de châteaux. Je ne sais pas si vous connaissez la Vendée, mais la plupart des châteaux, en fait, qui datent d'avant la Révolution, n'existent plus. Ou alors, ils ont été reconstruits pour certains, mais vous avez énormément de châteaux qui ont été brûlés pendant la guerre de Vendée. Exception, c'est celui de la Chabotrie, là où était capturé Charette. Ici, la Durbolière, vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui, il reste que des moignons de murailles. Donc ici, c'est Marat, un des chefs révolutionnaires qui est assassiné à Paris, par Charlotte Corday, qui n'est pas une royaliste, contrairement à ce qu'on dit, mais qui est une girondine, donc fédéraliste, elle est normande, et donc c'est pour tenter de mettre fin aux excès de la Révolution qu'elle va assassiner Marat, mais comme vous le savez, ça ne va avoir aucun effet, bien au contraire. Parce que le pouvoir révolutionnaire va se radicaliser d'autant plus parce qu'il se sent menacé partout. Et quand un pouvoir est menacé, bien, il réagit de manière de plus en plus sanguinaire. Et quand un pouvoir réagit comme ça, ça montre finalement, d'une certaine manière, sa faiblesse aussi. Parce qu'il se sent menacé. Ici, on a un autre révolutionnaire montagnard qui s'appelle Bertrand Barrère de Vieuxac. Alors en fait, sa particule, en fait, c'est un bourgeois, mais en fait, c'est juste qu'il a... Il s'est donné une particule, en fait. Beaucoup de bourgeois aspiraient à rentrer dans la noblesse, mais c'est avant tout un bourgeois. Et il a fait un discours le 1er août 93 pour demander l'anéantissement de la Vendée. Il va faire deux discours le 1er août et le 1er octobre 93 qui vont donner deux lois pour demander l'extermination des Vendéens. Puisque la Convention ne comprend pas comment les Vendéens, qui sont de simples paysans, réussissent à tenir tête d'abord aux gardes nationaux et ensuite aux troupes professionnelles qu'on va envoyer contre eux. Alors que ces troupes sont considérées comme les meilleures d'Europe. C'est le cas de l'armée de Mayence, que vous connaissez peut-être, on appelait les Mayençais. Pourquoi on l'appelle l'armée de Mayence? Mayence, c'est une ville en Allemagne. Et cette armée va s'illustrer lors du siège de cette ville. Elle va être assiégée pendant plusieurs mois par les troupes autrichiennes et prussiennes qu'on voit ici. Ils vont être assiégés pendant plusieurs mois avec certains généraux célèbres comme Kléber. Et au bout d'un moment, ils se rendent à l'ennemi, mais avec la promesse... Ils pourront conserver leurs armes, leurs uniformes, leurs drapeaux et retourner en France. Par contre, les coalisés, donc les Autrichiens et les Prussiens, leur demandent une chose, c'est de ne plus porter les armes contre les troupes coalisées. Qu'est-ce que va faire la Convention? Elle va envoyer cette armée de Mayence contre les Vendéens. Et cette armée de Mayence jouit d'un immense prestige, parce qu'elle est considérée comme je disais, comme la meilleure d'Europe. Donc Kléber, le célèbre Kléber, qui va combattre en Vendée, et qui ensuite finira sa vie en Égypte, puisqu'il participera à la campagne d'Égypte où il sera assassiné par un musulman. Donc Kléber, le célèbre Kléber, et alors, je passe, hein, je vais assez vite parce qu'on peut pas rentrer dans les détails, mais il y a une célèbre bataille, c'est la bataille de Torfou, où l'armée des Mayençais qu'on a évoquée va être battue par de simples paysans. Donc c'est un véritable camouflet pour cette armée de Mayence. Ici dans le tableau, on voit des femmes qui sont en train de faire honte, donc des femmes vendéennes qui sont en train d'exiger de leur mari qui sont en train de battre en retraite, et bien de retourner combattre. Les femmes, j'en ai pas parlé, mais elles ont joué un rôle très important dans les guerres de Vendée. Alors déjà parce que, bien sûr, elles soutiennent les combattants, elles sont là pour soigner. Il y a beaucoup de religieuses qui sont là pour soigner les blessés des deux camps, hein, aussi bien des Vendéens que des Républicains, notamment les filles de la sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais il y a également beaucoup de femmes combattantes, celles qu'on appelle les Amazones. Alors, on connaît les Amazones de Charette, mais il y avait aussi dans l'armée vendéenne de simples paysannes, comme par exemple René Bordereau, qu'on surnommait Brave Langevin, qui était un petit peu une Jeanne d'Arc hein, de l'époque, et qui combattait habillée en homme, et qui était très très intrépide au combat, puisqu'elle a voulu venger son père qui avait été massacré sous ses yeux. Donc les femmes ont joué un rôle vraiment très important dans ces guerres, mais il y a aussi beaucoup de femmes issues de la noblesse donc qui vont combattre en tant qu'Amazone, en tant que cavalier. Voilà, et ensuite, autre bataille, c'est celle de Cholet, le 17 octobre 93, donc toujours avec l'armée de Mayence, mais cette fois, les Vendéens vont être battus dans la ville de Cholet, et ça va être ensuite un reflux, puisque les Vendéens vont essayer de s'échapper vers la Loire. Il aurait fallu que je remette la carte, mais c'est un peu loin. Parce que vous voyez, Cholet est beaucoup plus au sud par rapport à la Loire, et les Vendéens vont s'échapper vers la Loire. Parce qu'ils ne savent plus où aller, parce que le pays est à feu et à sang, les républicains brûlent tout sur leur passage, donc les Vendéens vont essayer de s'échapper en se regroupant sur la Loire. Et ici, on a Bonchamp, qu'on évoquait, un des chefs vendéens, blessé à mort au moment de la bataille de Cholet, qui, à Saint-Florent-le-Vieil, alors que l'armée est regroupée, hein, Saint-Florent-le-Vieil, vous vous rappelez, c'est là qu'avait commencé l'insurrection, eh bien, dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, il y a 5000 prisonniers républicains qui sont regroupés, entassés et qui sont prêts à être massacrés. Les canons sont braqués contre les portes de l'église, hein, parce qu'on s'apprête à les mitrailler. Et quand Bonchamp entend ça, alors qu'il est sur le point de mourir, eh bien, Bonchamp ordonne aux autres officiers qu'on gracie les prisonniers. Et étant donné qu'il est à l'article de la mort, eh bien, on ne peut pas lui refuser ça, puisque là aussi, c'est un chef qui est très aimé de ses hommes. Et donc, il demande à un de ses officiers, qui s'appelle Dautichamp, de gracier les prisonniers. Là, il transmet l'ordre par écrit. Grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut, Bonchamp l'ordonne, c'est ce qui est véhiculé ensuite dans les rangs vendéens. Et donc là encore, les Vendéens acceptent. Déjà, parce que comme pour Delbé, hein, il y a bien sûr le côté chrétien, mais c'est aussi parce que les paysans sont tellement attachés à leur chef qu'ils ne peuvent rien leur refuser. Et donc les 5000 prisonniers républicains sont libérés, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est ingrat, puisqu'ils vont reprendre, ils vont continuer à combattre contre les Vendéens. Finalement, est-ce qu'ils avaient le choix? Pas vraiment. Les Vendéens, finalement, systématiquement gracient leurs prisonniers, mais ça ne fait que renforcer les troupes républicaines, puisque chaque fois, les prisonniers rejoignent les troupes républicaines. Et les révolutionnaires, quand ils apprennent cette grâce des prisonniers, ils ne sont pas du tout reconnaissants envers les Vendéens. Au contraire, ça les énerve d'autant plus, puisqu'ils disent comment se fait-il, ce sont des fanatiques, comment est-ce qu'ils peuvent gracier des hommes libres, puisque les révolutionnaires sont considérés comme des hommes libres, et les Vendéens sont forcément des esclaves et des fanatiques, puisqu'ils défendent les prêtres et les nobles. Ils refusent la liberté que la République leur donne généreusement. Donc ça énerve d'autant plus les républicains. Il y a un représentant du peuple en mission qui s'appelle Merlin Thionville qui ordonne aux républicains de ne pas divulguer cette nouvelle pour ne pas qu'elle se soit connue, puisque sinon ça discréditerait les républicains vis-à-vis des Vendéens. Puisque malgré tous les massacres qui sont commis, eh bien les Vendéens pardonnent à leurs ennemis. Et vous connaissez peut-être l'anecdote David d'Angers, qui est un célèbre sculpteur du 19e siècle, qui a eu comme père un soldat républicain gracié par Bonchamp. Et pour remercier Bonchamp, au moment de la Restauration au 19e siècle, il va construire une célèbre statue. On voit Bonchamp dans la même position qui demande grâce, et cette statue on la trouve sur le tombeau de Bonchamp dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil. Donc c'est un épisode très célèbre qui montre qu'il y a possibilité de pardonner face à l'horreur. Donc, je m'étais un peu attardé sur ce passage, mais il me semble important. Donc ici, donc la célèbre sculpture avec le tombeau de Bonchamp, David d'Angers. Donc la traversée de la Loire, il y a plus de 80 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, blessés, mourants, qui sont sur la Loire et qui tentent de traverser avec des barques de fortune et réussissent l'exploit en seulement quelques heures à traverser le fleuve, alors qu'on est au mois d'octobre à ce moment-là, et le fleuve est assez... ça n'a rien à voir avec la Loire telle qu'on l'a connue là, pendant l'été. C'était pas du tout à sec, c'était au contraire... le fleuve était très gros, donc ils ont réussi quand même en quelques heures à traverser la Loire, et les républicains ont été stupéfaits. Et bien de voir que les Vendéens ont réussi cet exploit. Et donc, ça va être le début de ce qu'on appelle la virée de Galerne. Alors, la virée de Galerne, c'est quoi? C'est le fait que les Vendéens quittent... Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Les Vendéens quittent leur territoire. Vous voyez ici Cholet, au sud. Ils vont vers Saint-Florent-le-Vieil et ils vont aller sur l'autre rive de la Loire. Ils vont aller jusqu'en Normandie, en Bretagne et en Normandie. Pourquoi? C'est parce que les chefs, en fait, ont dans l'idée de s'emparer d'un port de la Manche pour recevoir l'aide des Anglais et des princes émigrés. Sauf que cette aide n'arrivera jamais, et ça va être donc le début d'un calvaire pour cette armée, puisqu'au début, il va y avoir des victoires, mais ensuite, ça va être des défaites, il y a l'hiver qui arrive, et donc pendant 2 mois, cette armée va marcher, donc malgré le froid, malgré la dysenterie, les maladies, la faim, et les soldats républicains qui les pourchassent en permanence. Et donc ça va se terminer par plusieurs massacres. D'abord, Angers, qui n'arrive pas à s'emparer, les Vendéens n'arrivent pas à s'emparer d'Angers. Ils refluent vers le Mans. Là, au Mans, ils vont être massacrés par l'armée républicaine. Il y a plus de 15 000 Vendéens qui vont être massacrés. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu une affaire assez médiatique, puisque lors de travaux à Angers, eh bien, on a retrouvé donc des restes de squelettes, hein, de soldats vendéens et de civils vendéens aussi. On voyait qu'ils avaient été vraiment qu'ils étaient morts de façon violente, puisque avec des crânes fracassés ou autres et des os brisés. Et donc ça a lancé tout un débat pour savoir est-ce qu'il fallait mettre ses ossements, mais ça c'est une autre question. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé au massacre du Mans ces dernières années par cette découverte. Et donc ensuite les Vendéens vont refluer vers Savenay, tout près de Nantes, le 23 décembre 93, où ils vont être massacrés c'est les rescapés hein, de l'armée vendéenne, eh bien, ils vont être massacrés sans pitié par l'armée républicaine. Donc ici, le siège de Granville, le massacre du Mans, donc affreux massacre dans la ville. Ici, on a le général Marceau, un général qui commande l'armée républicaine, mais qui est plus modéré que d'autres. Hein. Il est beaucoup plus modéré que Westermann, par exemple, puisqu'il a essayé de gracier certains soldats vendéens, tout en, bien sûr, en ayant quand même du sang sur les mains, puisque les guerres civiles ne sont jamais propres. Et ici, le massacre de Savenay, le 23 décembre. Donc ça marque, en fait, cet épisode de massacre de Savenay, et ça marque la fin de l'armée catholique royale. Et désormais, on va avoir un tournant dans le conflit. Ce ne seront plus des armées organisées avec des grandes batailles. Ce sera désormais une guérilla, ce qu'on appelait à l'époque la petite guerre. Et c'est pour ça qu'après, les Vendéens, on va tendance à faire une confusion avec les Chouans, parce qu'ils vont combattre comme les Chouans, c'est-à-dire dans des petits groupes armés. Et puis, on va avoir, début de l'année 94, là, on pourrait se dire tout est terminé, c'est bon, l'armée vendéenne a été vaincue. Eh bien non, la Convention va mettre en place ce qu'on appelle les colonnes infernales, qui va être confiée là aussi à un ancien noble qui s'appelle Thurot de Garambouville, qui va commander donc 12 armées, enfin 6 armées qui étaient chacune réparties en deux colonnes, et bien donc ils vont quadriller le territoire pour en fait tout massacrer, alors qu'à ce moment-là, il ne reste plus que des civils, parce que l'armée vendéenne, comme je vous l'ai dit, elle a été massacrée au nord, avec la virée de Galerne et les massacres du Mans et de Savenay. Mais il y a vraiment, dans les lois républicaines de l'époque, il y a vraiment une volonté d'anéantir ce qu'ils considèrent, c'est leur propre mot, une race rebelle. Et une race en fait qu'il faut vraiment expurger du territoire national, parce que sinon la République ne sera jamais en paix. Et donc il suffit de lire les discours de l'époque. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas ce que certains prétendent, ce ne sont pas des crimes de guerre, c'est-à-dire ce ne sont pas des massacres commis par les généraux de leur propre volonté. Ces généraux ne font que d'appliquer les ordres du pouvoir révolutionnaire, ce qu'on appelle le comité de salut public. Le comité de salut public, c'est un groupe de députés influents qui agit sur la Convention. Donc parmi eux, on a Robespierre, Carnot, Saint-Just et tant d'autres. Et c'est eux, en fait, qui donnent les directives à cette armée pour massacrer donc le pays insurgé. Et d'ailleurs, Thurot, qui est un bon militaire, hein, il veut couvrir sa responsabilité. Et à plusieurs reprises, il demande un ordre écrit de la part du comité de salut public pour couvrir sa responsabilité. Et il finit par l'obtenir. Hein, donc c'est pour ça qu'après la Révolution, après la Terreur, il va être un moment inquiété par la justice pour les massacres qu'il a commis. Mais il va réussir à se défendre en disant bah, « je n'ai fait que d'appliquer les ordres ». Et c'est pour ça qu'il a été gracié, puisqu'il n'a fait que d'appliquer ce que le pouvoir politique à Paris avait décidé. Donc il y a énormément de massacres, on va aller très vite, hein, mais un massacre emblématique, mais il y en a des centaines d'autres, c'est le massacre d'Eluc-sur-Boulogne, où... c'est après... Bon, j'avance trop. Donc le massacre d'Eluc-sur-Boulogne, où c'est 564 villageois qui sont réunis dans une église, et l'église, en fait, va être canonnée par la troupe. Donc, ils vont tous périr dans l'église. Mais il y a énormément d'autres cas qu'on pourrait citer, mais les Luxembourg, c'est le plus connu. Donc, la Roche-Jacquelin, qui continue la lutte, va être tué au cours d'une embuscade, un bleu à qui il venait de faire grâce. Et puis, donc, il est tué. Et à Nantes, et je m'arrête sur ça, Nantes, c'est très important, puisqu'il va y avoir énormément de massacres commis par un révolutionnaire qui s'appelle Carrier, Jean-Baptiste Carrier, qui est aussi un député de la Convention, qui va être envoyé par la Convention à Nantes pour purger la ville, qui est considérée comme une ville contre-révolutionnaire. Donc il va massacrer non seulement des Vendéens, prisonniers, mais également des Nantais, qui vont être suspectés d'être pas assez révolutionnaires ou trop modérés. Donc il va inaugurer ce qu'on appelle les noyades, le mariage républicain, on l'appelle le mariage républicain, ou la grande baignoire nationale également. Donc c'est quoi le principe? C'est qu'en fait, on réunit en fait donc des personnes de tout sexe, de tout âge, qu'on va dénuder, puisqu'il y a eu des raffinements d'horreur hein, de la part de ces sans-culottes. Hein, ici, vous voyez, c'est des sans-culottes qui font partie de la compagnie de Marat. C'était une troupe de sans-culottes révolutionnaires très, très radicales et qui inventaient des raffinements de cruauté, donc par exemple en attachant des prêtres ou des religieuses dos à dos ou alors dans des positions obscènes. Et en fait, on les mettait dans une barque, et en fait, la barque s'ouvrait dans le fond, et donc ensuite, les personnes étaient noyées, comme vous voyez sur la gravure, et puis on les harponnait pour les empêcher de s'accrocher à la barque ou de s'échapper. Voilà, Jean-Baptiste Carrier, qui lui, contrairement à beaucoup d'autres révolutionnaires, va être guillotiné par le pouvoir révolutionnaire, puisque au moment de la chute de Robespierre, et ça c'est intéressant de le souligner, on va essayer de trouver des boucs émissaires. On va essayer de trouver des boucs émissaires, et Carrier va faire partie de ces boucs émissaires. Alors que Carrier, c'est pas pour le justifier ses actions, bien sûr, mais Carrier ne faisait que d'appliquer les ordres du pouvoir révolutionnaire. Alors bien sûr, après les inventions des noyades, tout ça, enfin ce qu'il a inventé, c'était pas forcément le pouvoir révolutionnaire qui lui avait demandé, mais il était là pour purger la ville, donc c'est pour ça qu'il a inventé les noyades. Il y a eu les massacres aussi, les fusillades dans les carrières de gigants, la guillotine sur la place du Bouffet, pour ceux qui connaissent un peu Nantes. Donc c'est en fait Nantes, on peut considérer que c'est une sorte de camp de concentration un petit peu, puisque, enfin même beaucoup même, puisqu'on va avoir vraiment des prisonniers, des prisons qui vont être pleines, avec beaucoup de maladies, de personnes qui vont mourir donc dans ces prisons. Et donc il va y avoir plusieurs milliers de personnes qui vont mourir pendant l'hiver 93-94. Voilà, j'essaie d'aller plus vite parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Massacre des Luxembourg, que j'évoquais tout à l'heure, où il y a notamment 110 enfants de 7 ans qui ont été tués. Alors pourquoi on le sait? Puisqu'en fait, tous les noms ont été écrits dans la chapelle, une chapelle qui a été reconstruite au XIXe siècle, puisque le prêtre de la paroisse, en fait, qui a réussi à échapper au massacre, a tenu en fait, sur un journal, le nom de tous ces paroissiens qui sont morts, avec leur âge, et certains n'avaient que quelques mois même. Voilà. Donc là, Elisabeth de France et la sœur Louis XVI qui va guillotiner. Je passe. Voilà. Chute de Robespierre, la chute de Robespierre, elle est importante, puisque à ce moment-là, le pouvoir révolutionnaire va être plus modéré, on va dire, mais il y a quand même eu des massacres qui ont continué. Il ne faut pas croire que Robespierre, une fois tombé, eh bien qu'il n'y avait plus de massacres, ça va continuer. Mais on va arrêter la pratique des colonnes infernales, parce qu'on se rend compte que les colonnes infernales, elles vont avoir l'effet inverse de ce qui était voulu au départ, c'est-à-dire que ça va radicaliser les Vendéens, puisque vous ne pouvez plus être neutre à partir du moment où on vient vous massacrer dans votre village, que vous soyez républicain ou royaliste, parce que ça aussi, c'est important de le souligner. Il y avait des Vendéens qui étaient républicains et qui ont été quand même massacrés parce qu'ils avaient le tort de vivre sur le territoire qui était considéré comme le territoire maudit qu'il fallait exterminer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu même des plaintes de patriotes républicains. Patriotes, c'était le nom qu'on donnait aux républicains, de plaintes en disant que les codes infernales massacrent indistinctement. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter cette pratique et on va essayer de trouver une autre solution après la mort de Saint-Just, de Robespierre, tout ça. On va essayer de pacifier la Vendée. Pour mettre fin au conflit. Ça va être le traité de la Jaunée en 95 avec Charette. Ensuite, il y aura Stofflet, un des derniers chefs avec qui on va signer la paix. Mais cette paix va être très provisoire puisque les Charette et Stofflet vont reprendre la lutte. Ici, vous avez une scène de pacification avec des hussards. Et la lutte va reprendre très rapidement en juin 95. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça va concerner plus la partie de Charles. Et en fait, Hoche, qui est le chef général républicain à ce moment-là, va a compris qu'il fallait pacifier la Vendée, mais en s'en prenant simplement aux chefs et désolidariser les paysans des chefs en réautorisant en fait la liberté de culte, la liberté de célébrer les messes. Et comme ça, ça va très bien marcher, puisque progressivement, les Vendéens, qui sont déjà bien sûr épuisés par des mois de lutte et puis de massacres, eh bien, font progressivement se désolidariser des quelques chefs qui restent. Et c'est pour ça que Stofflet, puis ensuite Charette, vont être capturés et fusillés. Et donc, ça marque la fin des gardes de Vendée, mais pas véritablement, parce qu'il y en aura d'autres qui vont continuer, notamment sous le règne de Napoléon. Mais ça, c'est une autre histoire, et ça n'a pas vraiment la même ampleur que ces gardes de Vendée que j'ai essayé d'évoquer aussi rapidement que possible. Voilà, le logis de la Chaboterie, si vous ne connaissez pas la Vendée, allez-y, c'est très beau logis. Donc on a une croix où Charette a été capturée. Voilà, je vais m'arrêter là, exécution de Charette à Nantes, avec son masque mortuaire. Excusez-moi pour le temps que j'ai mis. C'est pas évident d'être synthétique sur tout ça.
Eh ben, on te remercie Arnaud pour ta présentation. On sent que